Le Décaméron de Boccace par Paul de Saint-Victor. Les poètes ont souvent parlé du lien secret qui rattache l'amour à la mort. Le Décaméron de Boccace semble inspiré par cette fraternité mystérieuse. Jamais poème plus riant n'eut un frontispice plus sinistre. On entre dans ce jardin enchanté où se lève l'aurore de la Renaissance par une avenue encombrée de fossoyeurs, de porteurs de torches et de charrettes funéraires. La peste noire est à Florence. Les morts courent les rues et se rangent en file par centaines, derrière un prêtre livide qui les conduit au cimetière, en récitant sur lui-même les prières des agonisants. Le Moyen-Âge va finir et il fête son dernier jour par une danse macabre. Les vies s'éteignent comme les mille cierges d'une cathédrale dont les cérémonies se terminent. « Hélas !» s'écrie le conteur, « que de grands palais, que de belles maisons !» Que de nobles demeures, naguère encore pleines de seigneurs, de dames et de familles, se trouvèrent vides tout d'un coup. Que d'opulents héritages et de grands trésors restèrent sans successeurs. Que d'hommes vaillants, que de belles femmes et de beaux jeunes gens, que Galien, Hippocrate et Esculape eux-mêmes auraient jugés robustes et bien portants, dînèrent le matin avec leurs parents, leurs compagnons et leurs amis, et s'en allèrent le soir dans l'autre monde avec leurs ancêtres. C'est du sein de cette mortalité que Boccace va faire sortir les prémices de la vie nouvelle. Au chant du Dies Irae, il répond par des contes d'amour. Il sème les fleurs de la Renaissance dans le sol de cet immense cimetière, et la vie germe du sépulcre sous mille formes riantes et gracieuses. Les poètes ont souvent niché l'oiseau de Vénus dans le casque de la guerre. Boccace, plus hardi, le fait chanter dans une tête de mort. Au milieu du deuil qui remplit Florence, sept jeunes dames et trois beaux jeunes gens se rencontrent dans l'église de Santa Maria Novella. Ils conviennent de fuir ensemble la cité mortuaire. Pampinea offre sa villa. On l'accepte, on s'y réfugie, on s'y enferme comme dans une oasis de salubrité et de paix. Le banquet de Platon est dressé sous ses frais ombrages. Chaque matin, un roi ou une reine, élu par le sort, préside à la fête du jour. Les danses succèdent au festin et la musique à la causerie. Après la sieste de midi, les dames et les cavaliers, groupés en cercle sur la pelouse du jardin, se racontent tour à tour des histoires galantes. Le glas des agonies sonne dans le lointain, mais on peut le prendre de loin pour une sonnerie de fête. La brise qui souffle dans les orangers est peut-être pestiférée. Qu'importe le poison caché dans la coupe, si le breuvage est exquis. Il fait bon de s'endormir bercé par ces jeunes voix émues ou rieuses, au son des viols, à l'écho des joies de ce monde qui semble finir. Ainsi, le génie de la Renaissance s'éveilla, comme s'endormit le génie païen en raillant la mort. À tous les jugements derniers de l'histoire, on voit se répandre, comme une grâce d'État, cette ironique insouciance du présent et de l'avenir. Antoine et Cléopâtre, cernés par Octave, organisent ce qu'ils appellent la bande de ceux qui doivent mourir ensemble, et cette troupe funèbre, dont les jours sont comptés, remplit Alexandrie de mélancoliques algarades. Le jardin délicieux et sinistre du Décaméron ne rappelle-t-il pas encore les termes tragiques où venaient s'évanouir dans les parfums les jeunes patriciens proscrits par les Césars, où Pétrone, les veines ouvertes, dictait des vers silencieux dans la vapeur sanglante de son bain? Il y a de l'effroi mêlé au charme qu'inspirent ces jeunes femmes, qui oublient dans les délices d'une villégiature élégante leur famille, leurs proches, leurs amis, leur ville qui se meurt. Le château de Pampinea semble une arche cruelle, dont les passagers couronnés de fleurs se moqueraient des naufragés luttant contre les grandes eaux du déluge. Le Décaméron est la chronique railleuse d'une société mourante, lue au chevet de son lit funèbre. Le héros de la Renaissance y conduit en bouffonnant les funérailles du Moyen-Âge, comme ces mimes qui, aux obsèques antiques, contrefaisaient les gestes et la physionomie du défunt. La sculpture grecque entrelaçait des rondes de faune et de bacchantes sur les parois des sarcophages. Le conteur florentin cisèle des bas-reliefs érotiques et des statuettes de moines luxurieux sur la tombe austère où le mort gothique, les mains jointes et les pieds en pointe, dort rigidement son dernier sommeil. Ainsi, quelques années suffisent à détourner le cours des siècles et le penchant des esprits. Imaginez Dante, témoin de la peste du XIVe siècle, et survivant à ses hécatombes. Quel terrible chant des morts il aurait entonné sur les générations abattues. de quel souffle puissant il aurait poussé ces grands essaims d'âme vers leurs destinations éternelles. C'est de la vallée de Josaphat qu'il aurait contemplé ce carnage de l'humanité. Boccace a choisi pour point de vue le Tibur d'Horace. On dirait que la sombre mise en scène de son livre n'est qu'un artifice d'artiste, un cadre de cyprès destiné à rehausser la volupté de ses contes et la beauté de ses femmes. Scheherazade du sépulcre, elle chante sous la faux qui tranche si largement autour d'elle. Quelle joie de vivre au fort de la mort! Quelle rieuse vengeance au milieu de cet automne de la race humaine! Si la peste surprenait une des conteuses pendant son récit, elle descendrait aux enfers, comme Proserpine, une poignée de fleurs à la main. Un demi-siècle à peine sépare le Décaméron de la Divine Comédie, et en passant d'un livre à l'autre, vous franchissez une distance égale à celle des deux pôles. Si les 100 chants du Dante ont des antipodes, ce sont les 100 nouvelles de Boccace. Tandis que le poète, rempli des haines et des amours de sa ville natale, les transporte dans l'autre monde dont il fait une Florence infernale et céleste, le conteur disperse ses récits à travers toutes les villes et toutes les régions. Il fonde dans son livre cette cité imaginaire de Cosmopolie qui, remplaçant la Rome idéale, va devenir, pendant tant de siècles, la capitale morale de l'insouciante Italie. Les passions du Moyen-Âge qui saignent et brûlaient encore, ces discordes de noir à blanc, de guelfes à gibelin, que Dante prolongeait dans l'éternité, comme si le temps ne suffisait pas à les assouvir, le Décaméron les laisse à peine entrevoir. Elles y semblent aussi refroidies et aussi lointaines que les factions des Gracques et les proscriptions de Sylla. Que le Moyen-Âge italien paraît sombre et farouche dans les cercles concentriques de la Divine Comédie, qu'il semble clair et frivole dans le labyrinthe du Décaméron. Aux féroces légendes de la guerre civile, hurlées du fond des flammes par des damnés formidables, succèdent des contes moqueurs racontés par d'aimables dames. Stratagèmes d'amoureux, ruses de courtisanes, joyeux adultères, farces bourgeoises enluminées sur le fond d'or de la vieille civilisation florentine. L'indifférence politique de Boccace n'a d'égal que son insouciance religieuse. Dès le seuil du livre, le conte des trois anneaux inaugure la tolérance sceptique de l'époque moderne. L'Église corrompue et déchue qui arrache à Dante de si furieux anathèmes et qui lui fait jeter des papes dans les fosses de feu de l'enfer n'inspire au conteur que des fabliaux graveleux et des caricatures monastiques. Faux miracles et fausses reliques, intérieurs de couvents hantés par des incubes en chair et en os, prêtres surpris par les maris dans le lit conjugal comme dans le filet de Vulcain, le confessionnal servant d'entremetteur à l'amour et les ailes postiches de l'ange déguisant les fornications du frate. Du monde des morts, encore retentissant de la voix du Dante, Boccace ne tire que des fantômes dérisoires qui en reviennent le sourire aux lèvres et clignant de l'œil d'un air déniaisé. Tinguccio sort du purgatoire pour dissiper les scrupules de son ami Meuccio qui craint de commettre un péché mortel en courtisant sa commère. La vision d'Anastase, d'Eli Onesti, dans une forêt de Ravenne, paraît d'abord effrayante. Il voit un cavalier basané monté sur un cheval noir qui poursuit une femme nue et échevelée dont ses chiens rongent le sein et dévorent le cœur. Cette chasse diabolique semble digne de courir dans les forêts vivantes de l'enfer du Dante. Achevé le conte, le sauvage veneur est un amant dédaigné, la femme dévorée est une beauté cruelle, ainsi damnée et châtiée pour lui avoir tenu trop longtemps rigueur. La fantasmagorie dantesque se termine en morale anacréontique. Une sérénité imperturbable recouvre, comme du masque antique, ses facéties licencieuses. C'est avec le style de Tite-Live que Boccace raconte les commérages de Florence. Ces périodes cicéroniennes drapent de la toge consulaire Calandrino et Buffamalco. La langue romaine, dans laquelle sont narrées ces comédies conjugales, leur donne la gravité que revêtent avec le temps les bouffonneries séculaires. Il y a dans son livre des scènes de femmes volages et de maris crédules qui rappellent ces bas-reliefs antiques où l'on voit de graves béliers que de nymphes demi-nues retiennent en faux latran par les cornes. Ne vous fiez point à cette bonhomie solennelle. Elle cache le génie florentin le plus net et le plus sagace. le désabusement complet, le sens raffiné de la vie pratique, la sensualité positive et délicate à la fois qui caractérise l'épicuréisme italien, l'acquiescement ironique aux conventions de la vie perse à chaque instant sous l'apparente simplicité du conteur. Souvent aussi, la malice subtile de certains récits, lorsqu'ils sont contés par Fiammetta ou par Néiphile, font songer au sourire de la Joconde du Vinci. Il en est d'autres dont l'impudeur robuste et hardie évoque devant les yeux ces grandes nymphes du Giorgione qui se promènent nues dans la campagne ardente devant de jeunes Vénitiens accoudés au bord d'une fontaine. Tout n'est pas rire pourtant et moquerie plaisante dans le Décaméron de Boccace. L'impression qu'il fait sur l'esprit est celle d'un été splendide entrecoupé de violents orages. Peu de larmes, mais des coups de tonnerre. Aucune effusion de tendresse, mais ça et là, de foudroyants éclats de passion. Quand l'amour vrai paraît dans le Décaméron, il y sévit aussi terriblement que la peste de son exorde. On en meurt, et de mort subite, comme d'une blessure physique qui traverserait la poitrine en perçant le cœur. Jérôme, épris de Sylvestra, et la retrouvant mariée après 2 ans d'absence, pénètre la nuit dans sa chambre. Il lui demande qu'elle lui fasse dans son lit une place pour mourir, et il y meurt en effet, tranquillement, naturellement, de son désir étouffé. Simone, accusée d'avoir empoisonné son amant, se justifie en mâchant à son tour la plante venimeuse qui la fait mourir. Mais la plus belle et la plus exquise de ces légendes de l'amour subi est celle de Lise, fille de Bernardo Puccini, apothicaire de Palerme, devenue amoureuse de Pierre d'Aragon. Ne vous récriez pas sur la profession de son père, puisqu'un roi n'en a pas rougi. L'apothicaire, en ces temps anciens, n'était pas le personnage grotesque que Molière a fait. Il tenait du médecin et de l'alchimiste, avec ses drogues bizarres, ses pilules de pierreries et son or potable. La thérapeutique arabe lui avait transmis des formules de charme et d'incantation. Imaginez la jeune Lise assise au comptoir de son père, sous une image byzantine de Saint-Nicolas, le patron des pharmacopoles, entourée de belles maïoliques siciliennes aux dessins moresques, pleines d'ambre gris et de bézoard, et le cadre ne sera pas indigne du portrait. Lise Puccini, ayant donc un jour de fête, vu le roi Pierre d'Aragon jouer à la catalane avec ses barons, s'éprend de lui ardemment. « Di lui ferventemente s'innamoro. » La fête terminée, elle ne cesse de penser à ce haut amour, mais désespérant d'y atteindre, elle tombe bientôt mortellement malade. Sentant sa fin approcher, elle prie son père d'appeler auprès de lui Minuccio d'Arezzo, un jeune musicien en faveur auprès du roi Pierre. Minuccio arrive et joue doucement de la viole devant le lit de la malade. Mais la musique ne fait qu'irriter sa fièvre. Restée seule avec Minuccio, Lise lui avoue la flamme dont elle meurt. Sachant combien peu mon amour convient à celui d'un roi, et ne pouvant ni l'éteindre, ni même l'apaiser, j'ai pris le parti de mourir. Mais je mourrai moins désespéré si le roi sait que je meurs pour lui, et j'ai compté sur toi pour qu'il le sache au plus tôt. Minuccio, ému de pitié, accepte le triste message. Il va trouver Mico de Sienne, fort bon maître de rime pour le temps d'alors. Assai buon dicitore in rima a quel tempi. Et le poète, à sa prière, écrit une canzone que Minuccio met en musique sur un air gémissant et tendre. Le lendemain, il vient la chanter au roi, assis à table avec ses barons. La plainte mélodieuse lui va droit au cœur. Il y démêle un aveu secret et veut savoir à qui elle s'adresse. Alors Minuccio lui raconte l'histoire de Lise et comment elle se meurt de l'amour qu'elle a pris pour lui. À ce récit, le roi fit grande fête, fece gran festa. Il donne à Lise de grandes louanges, disant qu'une si vaillante jeune fille méritait bien qu'on eût pitié d'elle. Et il ordonna à Minuccio d'aller la consoler de sa part et lui dire qu'il irait ce jour-là même, à l'heure de vêpres, lui faire une visite. À l'heure dite, Pierre d'Aragon monte à cheval et s'arrête devant la maison de Bernardo. Il se fait conduire auprès du lit de la jeune fille qui, avertie par Minuccio, l'attendait, soulevée sur ses oreillers, dans l'attitude d'une malade qui va recevoir l'hostie du viatique. « Madame, lui dit le roi en lui prenant la main, Madonna, que veut dire ceci? Vous qui êtes jeune et qui devriez réjouir les autres, vous vous laissez abattre par le chagrin? Nous vous prions pour l'amour de nous de vous consoler et de vous guérir. » À ces bonnes paroles et au contact de la main royale, la jeune fille se sent heureuse comme si elle eût été dans le paradis. Elle promet au roi de guérir et se ranime à vue d'œil. Quelques jours après, Pierre d'Aragon, qui a tout dit à la reine, retourne avec elle, suivi de sa cour, dans la maison de l'apothicaire, et là, s'adressant à Lise, qu'il trouve levée et convalescente, « Belle fille, lui dit-il, le grand amour que vous nous avez porté vous a près de nous mis en grand honneur, et celui que nous voulons vous faire est de vous donner un mari de notre main, ce qui ne nous empêche pas de nous déclarer désormais votre chevalier, sans vous demander autre chose pour cette promesse qu'un seul baiser. » Lise, rougissante et genoux en terre, lui fait cette humble et noble réponse. « Sire, je sais qu'on me croirait folle si l'on savait que j'étais amoureuse de vous. Mais Dieu m'est témoin qu'à l'heure même où cet amour me prit, je n'oubliais pas que vous étiez le roi et moi, la fille de Bernardo. Vous savez qu'on ne commande pas à son cœur et qu'on n'aime pas à son choix, mais selon son désir. Le mien m'attirait vers vous et j'essayais de lui résister. » N'en pouvant plus, je vous aimais, je vous aime encore, et je vous aimerai toute ma vie. Du moment que je vous aimais, je résolus de faire toujours de votre volonté la mienne. Ainsi, non seulement j'épouserai et j'aimerai le mari que vous voulez que j'épouse et que j'aime, mais si vous le désiriez, je me jetterai au feu avec joie. Quant à l'offre que vous me faites d'être mon chevalier, vous qui êtes mon seigneur et mon roi, vous sentez combien peu un tel honneur m'appartient. Je ne veux donc point y répondre, et pour le baiser, je ne l'accorderai qu'avec la permission de la reine. » La bonne reine permet cette chaste faveur, et le roi baise au front la jeune fille devenue sa dame. Puis il la marie à un de ses gentilshommes nommé Père d'Icône, en lui donnant pour dot les deux fiefs de Catelabotta et de Cefalù. Et depuis, dit en terminant Pampinea, il fut toute sa vie le chevalier de Lise Puccini, et dans tous ses faits d'armes, il parut toujours avec les devises qu'elle lui envoyait. Ne souriez pas. L'ironie romprait le charme de cette belle et naïve histoire. La chevalerie y brille dans sa fleur. La royauté y apparaît bienfaisante et pure, telle que cela figurait l'imagination enfantine des premiers trouvères. Cela vous transporte dans l'âge d'or monarchique de Charlemagne et d'Artus. Ce jeune roi, sage comme un patriarche, chaste comme un héros celte, est en même temps un cavalier accompli. Sa continence n'a rien d'emphatique. Ce n'est pas celle d'un Scipion romain, mais d'un gentilhomme consommé dans les secrets de l'amour et qui sait le prix de ce qu'il refuse. Ce désintéressement magnanime lui donne quelque chose de presque divin. Pierre d'Aragon, au chevet de Lise Puccini, me rappelle l'époux céleste que l'on voit dans les mariages mystiques des vieux maîtres passer l'anneau au doigt d'une jeune vierge défaillante et pâmée d'amour. L'atroce énergie de l'âge dont on sort se révèle aussi dans les vengeances qui remplissent presque toute une journée du livre. Trois frères siciliens poignardent l'amant de leur sœur et l'ensevelissent dans un champ. La jeune fille va déterrer le corps de son bien-aimé. Elle coupe sa tête avec un couteau, la dépose au fond d'un vase qu'elle remplit de terre, y plante un basilic de Salerne et nuit et jour l'arrose de ses larmes. Ses frères lui enlèvent cette urne tragique. Elle meurt dès qu'elle lui est arrachée. Si le Décaméron a ses Sganarelles, il a aussi des Othello qui valent celui de Shakespeare. On y rencontre des maris sinistres coulés dans le bronze des Ezzeline et des Ruggiero. Néron en raccourci, tyran diabolique d'une méchanceté presque grandiose, tant elle est affreuse. Tel ce mari qui fait manger à sa femme le cœur de son amant, préparé et assaisonné en hachis. Et la dame lui demandant quel est ce mets si exquis. « Que Dieu m'aide, dit-il, je ne m'étonne point que vous trouviez bon mort ce qui, vivant, vous a plu par-dessus tout. »« Si maite Dio, io ne me ne m'avarlio se morto vi piace, ciò che vivo più che altra cosa vi piace. » Malgré sa réputation graveleuse, c'est encore au groupe des figures sérieuses du Décaméron qu'appartient la fiancée du roi de Garbe, cette Thalassiel si fatalement belle, vouée par le sort aux excès de l'amour et déchaînant sans le vouloir des orages de crimes et de catastrophes. Ses amants tuent pour la conquérir et sont tués à leur tour par d'autres amants, des lions ou des taureaux sauvages se déchirant autour de quelques superbes femelles qui attendent tranquillement l'issue du combat, Voilà l'image d'Alaciel au milieu de ses prétendants. Elle passe de rapt en rapt, comme une captive antique, des bras d'un gentilhomme dans ceux d'un bandit, du palais d'un duc dans le harem d'un sultan. Les vieillards même ont leur part de cette beauté mise au pillage. Alaciel résiste d'abord à chacune des violences que lui fait le sort. Puis elle cède et elle se résigne, et elle finit par aimer ceux qu'il aime jusqu'au meurtre et jusqu'à la mort. Irresponsable et désirable encore, après tant d'aventures et de flétrissures, car dit en terminant le conteur avec le sourire du vieux Salomon, « Bocca baciola non perde ventura, anzi rionova come fa la luna. » Vanité de la renommée. Un homme construit à la sueur de sa vie un monument laborieux. Le temps passe, en détache une pierre, la plus petite souvent, l'immortalise, et fait du reste un monceau de cendres. Boccace était un savant illustre, plongé dans les hautes études de son temps. Il composa de grands poèmes allégoriques et mystiques, des encyclopédies classiques, des traités d'histoire et d'érudition. Sa vie se passa comme celle de Pétrarque, à fouiller et à exhumer les manuscrits de l'Antiquité. À 50 ans, il renonça aux lettres profanes, revêtit l'habit clérical et se cloîtra dans l'enseignement de la Divine Comédie. Il prêcha 10 ans la parole de Dante dans une église avec le zèle d'un théologien scrutant et commentant l'Écriture. Et toute sa gloire tient dans un livre de contes licencieux écrit pour amuser une princesse qu'il renia énergiquement dans ses derniers jours. « De grâce !» écrivait-il à son ami Mainardo. « Ne lisez pas ce livre à des femmes. Elles me prendraient, en écoutant mes nouvelles, pour un vil entremetteur, un vieillard incestueux, un homme impur, et personne ne serait là pour s'élever en témoignage et pour dire « Il a écrit en jeune homme, et forcé par qui avait puissance sur son âme. » Vains remords, protestations inutiles. L'imagination se représentera toujours Boccace sous les traits d'un satyre aimable, assis au milieu d'un cercle de jeunes femmes, qu'il fait tour à tour sourire et rougir. La postérité s'est moquée de la contrition du vieillard. Elle l'a condamné à l'immortalité du Décaméron. Paul de Saint-Victor.